Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Bac FM. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouvel épisode de La Fabrique Citoyenne. Je m'appelle Lisa, je suis élève de première ST2S et élue du CVL, le conseil de vie lycéenne, au lycée Raoul Folraud. Et je suis en compagnie d'Éléonore, elle aussi scolarisée à Raoul Folraud en terminale STMG. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir M. Emmanuel Berbin, médecin au sein de l'organisation Médecins Sans Frontières, et Mme Brigitte Anselmi, du Secours Catholique. Emmanuel Berbin, pouvez-vous tout d'abord vous présenter ?
Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Emmanuel Berbin, je suis actuellement le référent de nutrition pour MSF Médecins Sans Frontières, section France. Donc, j'ai 42 ans, je suis nivernais, j'ai fait mes études à Raoul Folraud. J'ai commencé avec MSF il y a une quinzaine d'années, j'ai évolué sur différents postes, j'ai fait beaucoup de travail à l'étranger et depuis plus d'un an et demi je travaille plus spécifiquement sur la sécurité alimentaire et la malnutrition infantile.
D'accord, quel est votre parcours scolaire et universitaire?
Alors j'ai passé le bac, alors justement Raoul, hein, en 2000, j'ai fait mes études de médecine à Dijon. Et j'ai choisi comme, donc ça dure 6 ans, j'ai choisi comme lieu d'internat la région, l'interrégion anti-Guyane, hein, surtout pour faire mon internat principalement en Guyane, qui m'intéressait beaucoup parce qu'on y retrouve un contexte tropical, une maladie tropicale, le principe de la médecine en milieu isolé, une population aussi très multiculturelle et avec beaucoup de pédiatrie, d'infectiologie, de gynéco-obstétrique. Ensuite, pendant cet internat, en 2009, j'ai fait ma première mission avec MSF au Burkina Faso sur un projet de lutte contre la malnutrition qui a confirmé mon envie de travailler avec MSF. Ensuite, j'ai terminé mon internat, j'ai passé ma thèse et après ça, j'ai fait plusieurs missions, une vingtaine, hein, principalement en Afrique, au Moyen-Orient, avec Médecins Sans Frontières, sur différents niveaux de poste. Avant ça, et je pense que ça avait été assez déterminant finalement avant le bac et juste après, j'avais essayé de m'engager avec des associations, notamment Amnesty International. Et l'été, j'essayais de faire des petits partenariats, rejoindre des ONG locales. J'étais allé au Togo, j'étais allé dans le nord de la Cisjordanie, en Égypte aussi. Et ça avait confirmé et ça m'avait donné envie de travailler à l'international. Voilà. Ouais.
Quelle est la spécialité que vous avez choisie et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin dans le terme plus général ?
Alors moi, j'ai eu envie, presque en parallèle ou presque avant d'ailleurs, de travailler dans l'humanitaire et au sein de l'humanitaire, j'ai été très intéressé par la médecine. Ensuite, une fois le choix de la médecine fait, ça a été une grande discussion de savoir effectivement vers quelle spécialité m'orienter. Moi, j'ai essayé de garder autant que possible, c'était mon choix en tout cas, de garder une polyvalence dans les compétences, en considérant que bon, on a beaucoup de nos terrains d'intervention où il faut être un petit peu à l'aise avec la pédiatrie, avec la gynéco-obstétrique, avec l'infectiologie, avec la médecine d'urgence, et tout ça dans un contexte hospitalier. Donc finalement, moi, le parcours de médecin généraliste, enfin le diplôme de médecin généraliste me correspondait, auquel j'ai essayé d'ajouter des diplômes, des formations complémentaires, en médecine tropicale, en médecine en milieu isolé et par la suite d'autres formations avec MSF. Voilà.
Quelle est la différence selon vous entre un médecin dit classique et un médecin de votre ONG?
Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale. Tout d'abord, tout médecin peut, entre guillemets, s'il le veut et s'il a des compétences recherchées, peut travailler avec MSF. Je pense que le principal prérequis, ou en tout cas là où il y a quelque chose de notable qui joue, c'est dans la volonté de s'engager auprès des populations vulnérables, auprès des populations en détresse, d'une disponibilité, flexibilité, adaptabilité pour travailler à l'international. Ouais. Après, on n'est pas forcément MSF à 100%, il y a aussi des gens qui ont un travail annexe et qui font des missions ponctuelles en soutien. Moi-même, j'essaye de garder une activité hospitalière qui est plutôt ponctuelle, mais pour aussi garder un pied dans l'activité médicale française. Ouais.
D'accord. Pourquoi MSF ?
Alors, une fois ce choix fait de humanitaire et de médecine, j'ai fait ma petite évaluation de marché. Je pense que le principal élément qui m'a vraiment déterminé, c'est l'indépendance dans l'action et donc notamment dans le mode de financement, qui est principalement de dons privés. J'ai été vraiment attiré par cet aspect-là et par la capacité de mobilité des opérations, d'être capable d'intervenir dans des milieux ou des endroits qui peuvent paraître très compliqués. Et c'est cette capacité de déploiement qui m'a intéressé, qui m'a séduite. Ouais.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes le plus souvent confronté sur le terrain ?
Alors, c'est une bonne question, c'est une question assez complexe. Au sens large, je pense que l'indifférence ou l'absence de volonté politique de tourner les décisions en direction des populations vulnérables, c'est finalement la plus grosse des contraintes qu'on a. Là, on parle d'injustice sociale de façon générale. Après, en termes tout à fait pratiques sur nos terrains, on a des enjeux ou des challenges, des contraintes, on va dire, opérationnelles, notamment qui peuvent être dans l'approvisionnement, qui peuvent être dans la sécurité. Ça, c'est un aspect qui est vraiment prédominant. On a malheureusement beaucoup d'endroits où on souhaiterait intervenir, où on sait que les besoins sont importants, mais qui sont extrêmement difficiles d'accès, notamment en termes sécuritaires. Voilà, c'est quelques-uns que je pourrais mentionner. Ouais.
Alors maintenant, j'ai deux petites questions plus personnelles. La première qui est votre expérience la plus marquante. Ça peut être de façon positive ou négative, mais la chose où vous vous êtes dit « ça, je ne l'oublierai jamais ».
Alors, il y en a beaucoup. Si tu me le permets, je vais en mentionner deux, justement, une négative et une positive. La plus négative, la plus traumatisante, indubitablement, moi, c'est en 2012, je crois, au Sud-Soudan, à Aïda, un camp de réfugiés où la situation devient vraiment terrible en quelques semaines, avec un énorme afflux de réfugiés et un manque de contrôle sur les aspects de l'eau et de la sanitation, et une population qui devient très malade, notamment des enfants. Et donc j'étais médecin sur le terrain, on n'était que deux médecins pour un camp qui est devenu de 100 000 personnes, avec un contexte épidémique important, et on avait énormément de décès de mortalité infantile. Je pense que ça, c'est indubitablement ce qui m'a le plus marqué. Une réponse a été mise en place, mais elle a pris au moins à bas mot quelques semaines, et ça a été extrêmement difficile. La plus positive, alors je vais prendre une histoire individuelle, là, pour le coup, c'était un enfant à Bria, à l'est de la Centrafrique, je pense que c'était en 2016, et un enfant qu'on connaissait bien, il était déjà dans nos lits, un enfant de 3 ans, il était là déjà depuis 7 à 10 jours, un peu plus, je crois, qu'on avait mis sous traitement antituberculeux, parce qu'il avait des problèmes respiratoires, il était aussi malnutri. Et pendant la visite, un matin, l'infirmier nous court après, moi avec l'infirmière, il nous dit que l'enfant est en arrêt cardiaque, on le réanime, ça a été extrêmement compliqué, il a reçu plusieurs doses d'adrénaline. Et miracle, en 10 minutes, on a fait une ponction pleurale, on a sorti du liquide de son poumon qui a dégagé son cœur. On l'a réanimé. Il était 11h du matin, je crois, et à 8h le soir, j'oublierai jamais, l'enfant assis au bord de son lit en train de demander à manger. Ce qui est absolument un miracle en termes médicaux, parce que peu de patients reviennent d'un arrêt cardiaque. Là, tout était mis en place pour que ça fonctionne bien, et dans les suites, ça a bien évolué. Il a bien répondu au traitement antituberculeux, donc c'est de ces petits miracles qu'on retient le plus positif de notre travail. Ouais.
Comment arrivez-vous à allier votre vie professionnelle et personnelle ?
Ah, alors ça, c'est jamais très évident. On essaye de faire au mieux.
Vous partez à l'autre bout du monde, sur des terrains qui peuvent être à risque, donc pour la famille et tout ça.
C'est vrai, ouais. Alors, y a la gestion de communication avec la famille, ça c'est sûr. Je me souviens encore de mes parents, de ma maman, la première fois où je suis parti dans des pays un peu compliqués. Après, j'ai eu cette flexibilité de partir au moins 9 à 10 mois par an pendant une douzaine d'années. J'étais pas papa à cette époque, donc maintenant je suis papa. Ça a forcément modifié un petit peu l'organisation et les départs sur le terrain. Donc j'essaye à présent, surtout parce qu'elle est en bas âge, de partir un petit peu moins longtemps. Mais bon, ma compagne est aussi dans le milieu humanitaire, c'est ce que c'est du coup. Donc c'est quelque chose dont on discute, on essaye de trouver un juste milieu, ça se fait plutôt bien. Mais c'est vrai que les départs ne sont plus les mêmes depuis que mon bébé est là. J'ai le cœur un peu plus serré et j'essaye de revenir plus tôt.
Oui, ça doit faire une réelle différence. Maintenant, j'ai quelques questions sur les gens qui voudraient s'engager au sein d'une association humanitaire, plus particulièrement de MSF. Donc d'abord, pour vous, quelles sont les qualités principales pour intégrer Médecins Sans Frontières, s'il y en a ?
Oh, les qualités. Qui suis-je pour répondre ça? Je pense que quand même, l'une des choses principales dont on a besoin sur le terrain, c'est peut-être l'adaptabilité. Parce qu'on est quand même face à des situations qui sont inhabituelles, auxquelles on n'a pas été confronté par le passé. Et on ne peut pas être à 100% préparé, de toute façon. Donc, il faut être capable d'adapter un petit peu autant que possible à la gravité, au contexte, aux compétences nécessaires, de se remettre un petit peu en question. Deuxième qualité, qui est presque un peu le contraire de la précédente, mais c'est de se préparer autant que possible quand même, hein, de ne pas être amené à quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire. Il faut se renseigner au maximum, essayer de verrouiller un maximum les compétences et les besoins, et de faire une adéquation entre son propre profil et les besoins sur le terrain. Bon, et puis pour terminer, bien sûr, c'est l'engagement. Je pense qu'on a vraiment cette volonté d'être auprès des populations les plus vulnérables, et c'est aussi très gratifiant, hein, on le fait. Voilà. Et puis ne pas partir pour fuir, ça c'est important, ne partir pour entre guillemets les bonnes raisons. Et c'est un métier passionnant pour ceux qui veulent le faire.
D'accord, merci beaucoup. On sait qu'il n'y a pas que des médecins au sein de MSF, alors quels sont les autres personnels avec qui vous travaillez le plus régulièrement?
Oui, c'est un point tout à fait essentiel, hein. Les médicaux et paramédicaux, toute leur activité et leurs soins reposent grâce aux compétences et au déploiement de ce qu'on appelle les services supports. Donc il y a trois grands corps de métier, on va dire, très larges, hein. Il y a le médical, il y a aussi la logistique, donc il va gérer la construction, l'énergie, le transport, la communication, l'eau et la sanitation, etc. Et les ressources humaines et les finances, hein, tout ce qui a trait au recrutement, au profil, au dimensionnement en termes de besoins en ressources humaines, et l'aspect finance et comptabilité. Et tout ça est chapeauté, ces trois filières sont chapeautées par ce qu'on appelle l'opérationnel, qui fait un peu l'aspect synthèse, qui intègre tout ça dans un contexte de particulier. Donc il y a différents corps de métiers. Finalement, tous les métiers de la société civile retrouvent leur équivalent ou leurs besoins au sein d'MSF.
Voilà. Voilà, donc vous avez aussi même des infirmières, des aides-soignantes, je veux dire un autre personnel médical que les médecins.
Alors, sur le plan médical, oui. Alors, on essaye autant que possible. Il faut savoir que la plupart du personnel qui est présent sur nos terrains, et heureusement, la plupart du personnel sont nationaux ou locaux. On essaye d'abord de recruter localement, aussi pour encourager le développement d'un système de santé qui soit pérenne, etc. Et l'ajout de personnel international se fait en plus du personnel national, mais c'est une faible proportion. Je ne sais pas exactement le chiffre, je pense que c'est largement moins de 7 à 10%. Donc les corps de métier qu'on peut envoyer à l'international, bien sûr, ça peut être des infirmiers qui vont faire surtout le travail de cadre infirmier, de médecin, toutes les spécialités médicales, chirurgicales, de kiné, de psychologue, ça c'est pour le médical. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi les domaines de la logistique et de l'administration, au sens large, ressources humaines et finances.
Voilà. D'accord. Est-ce qu'on vous demande de parler des langues étrangères?
Alors oui, ça nous est souvent demandé. C'est vrai que, de façon générale, dans le travail à l'international et dans l'humanitaire et à MSF, un minimum d'anglais est malgré tout un prérequis. Après, selon le poste en question, ce n'est pas forcément un niveau d'anglais énorme. Il est pour la plupart des postes à minima demandé un niveau B1, et de façon générale pour être confortable, parce que beaucoup de documents de travaux, de réunions de travail, etc. peuvent se faire en anglais, il est souhaitable d'avoir un minimum sur l'anglais. Après, il y a d'autres langues qui peuvent être souhaitées selon les terrains d'intervention. Mais l'anglais et le français pour MSF France sont les deux principales.
D'accord. Et enfin, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent à s'engager, qui en vous entendant se disent « c'est peut-être quelque chose pour moi ». Qu'est-ce que vous auriez à leur dire?
Alors qu'il y a beaucoup de différentes façons, hein, de s'engager. MSF en est une parmi d'autres, et il y a énormément d'autres initiatives qui sont tout à fait louables et efficaces. Le message principal, et notamment au décours de la conférence qu'on a eue avec les lycéens au lycée il y a peu de temps, tout d'abord le message d'admiration, parce qu'on voit vraiment beaucoup de jeunes s'engager avec un dynamisme très important. Moi, je ne peux que encourager, notamment la jeunesse qui a envie de s'engager dans ces corps de métier. C'est un métier, et ce sont des métiers qui, moi, je trouve formidables et au service des gens, et qui permettent aussi de remettre en question une tendance qui peut être assez triste ou regrettable du monde à enfoncer et à approfondir. à renforcer certaines inégalités. Donc la lutte contre ces inégalités, contre cette injustice sociale, me semble être vraiment quelque chose d'essentiel. Donc je pense qu'il faut faire une bonne petite évaluation de ce qui peut être nécessaire, de ce qu'on a envie de faire, de quel est son propre profil, de se questionner soi-même de pourquoi on veut le faire, et ensuite, de y aller.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Berbin. Je laisse désormais la parole à Éléonore et à Madame Brigitte Anselmi.
Alors, bonjour, je suis Éléonore Batukwemi. Je suis en terminale de lycée Raoul Folero. Et aujourd'hui, comme l'a dit ma camarade Lisa, j'accueille Madame Brigitte Anselmi. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, moi, je m'appelle Brigitte Anselmi. Effectivement, j'étais prof d'anglais pendant une quarantaine d'années. Et quand j'ai pris ma retraite, j'avais envie de faire quelque chose pour les personnes seules, pour les personnes qui en ont besoin. Donc, je me suis engagée au Secours catholique. Et là, maintenant, je suis responsable de l'équipe de 2-6 du Secours catholique.
Alors, nous, en classe, l'année dernière, nous avons étudié ce qu'est une ONG. Mm-hmm. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pourriez expliquer du coup ce que c'est ?
Alors une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire qui ne reçoit aucune aide de l'État. Donc le Secours catholique, par exemple, ne reçoit aucune aide de l'État. Tout l'argent qu'il a lui vient des donateurs ou de quelques partenaires un peu plus riches, mais voilà.
Quel est le but du Secours catholique ?
Alors le but c'est d'être, c'est ce qu'on appelle la devise à l'heure actuelle du Secours catholique, c'est beaucoup aller vers. Ça veut dire on va vers les personnes qui sont seules, les personnes qui sont isolées, les personnes qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes d'argent, des problèmes de... Même on a une partie, enfin quelqu'un qui s'occupe de la précarité énergétique, ça veut dire les gens qui ont des maisons mal isolées, qui ont des factures énergétiques... énormes et qui ont besoin d'aide.
Et comment le Secours catholique vient en aide à ces personnes-là ?
Alors, différentes façons. D'abord, nous recevons les gens sous forme de ce qu'on appelle les dossiers, qui nous viennent de des assistantes sociales, qui nous proposent, par exemple, est-ce que vous pourriez les aider à régler leurs factures d'énergie ou les aider par une aide alimentaire, un bon alimentaire ou quelque chose comme ça. Et puis, d'autre part, on est ouvert régulièrement pour simplement ce qu'on appelle café-sourire, c'est-à-dire un café, un gâteau, un sourire. Donc, passer un moment ensemble et discuter, voilà.
Est-ce que tout le monde peut être bénévole ?
Bien sûr, tout le monde peut être bénévole au Secours catholique, oui, bien sûr, même les jeunes.
Et du coup, est-ce qu'il y a une formation particulière à suivre du coup, pour être bénévole ?
Non, quand on entre au Secours catholique comme bénévole, on a la formation M1, c'est-à-dire simplement être bien conscient des valeurs du Secours catholique. On nous rappelle les différentes valeurs du Secours catholique. Et après, c'est bon. Mais après, on voit en fonction. Alors, je sais qu'à Nevers, par exemple, à Place Chaméane, ils prennent des gens après leur avoir fait faire quand même une période d'essai, on va dire, entre guillemets. Mais bon, elle est très courte, cette période. Hein. C'est juste pour voir vos capacités et ce que vous aimez faire, par exemple, ce que vous pouvez apporter aux gens. Si, par exemple, vous faites, vous faites des ateliers créatifs, vous êtes capable de faire, de la menuiserie, du dessin, ou je sais pas quoi, ou simplement parler avec les gens, voilà, c'est tout.
Et du coup, quelles sont les valeurs du Secours catholique ?
Alors, les valeurs du Secours catholique, c'est beaucoup le respect et, comment on va dire, surtout accepter, parce qu'on s'appelle Secours catholique, mais en fait, c'est pas fait que pour les catholiques, ça veut dire on accepte des musulmans, des protestants, etc., tout le monde est bienvenu. Alors le respect des convictions, le respect des façons de vivre, le respect de etc. Et surtout la confidentialité, ça veut dire que les dossiers, par exemple, on les fait à part dans un bureau et bien sûr ce qu'on peut voir sur la, on se met toujours à deux parce que c'est mieux d'être deux pour décider à ce qu'on donne et ce qu'on donne pas. Mais surtout la confidentialité sur ce qu'on peut nous dire sur la vie de la personne, sur ses ressources, sur etc. Donc confidentialité, respect, et puis on est aussi un peu tourné maintenant vers l'écologie, ça veut dire apprendre à respecter la nature, apprendre à faire des achats quand on en a besoin et pas n'importe quand, apprendre à respecter la nature, et puis aussi respect des convictions de chacun, bien sûr, encore une fois, respect des convictions, respect de la nature, et puis aller vers les autres, et accueil, écoute.
Étant donné que, du coup, l'organisation ne dépend pas du gouvernement, de quelles ressources dispose-t-elle?
Elle dispose des ressources des donateurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Alors, tous les ans, on fait ce qu'on appelle la CFA, c'est-à-dire la campagne de fin d'année, qui commence le 19 novembre, le 19 ou autour de ça, avec la journée du secours catholique, où on distribue des enveloppes, des tracts, etc. Et puis après, les gens sont habitués à donner au secours catholique et ils donnent régulièrement. Certains donnent régulièrement, hein. Donc c'est les donateurs qui, quelquefois, des entreprises qui veulent bien nous aider, mais il y en a très peu, c'est surtout les donateurs privés.
Et où se situent les principales activités de l'ONG?
Alors les principales activités, c'est pas seulement en France. Hein. Le Secours catholique aide aussi une cinquantaine de pays à l'international. On a un projet, moi je fais partie du GRASI. GRASI ça veut dire Groupement d'initiation à la solidarité internationale. Et on fait beaucoup de choses à l'extérieur. Par exemple, on a un partenariat avec Madagascar, et donc on va recevoir bientôt des amis malgaches qui vont venir, alors que les gens du Secours catholique sont partis en octobre 2020, si je ne dis pas une bêtise, ou 2000, il y a quelques années, ils sont partis, ils ont été accueillis, ils ont vu des choses, et l'essentiel, c'est pas de leur apporter, on veut pas leur apporter obligatoirement nos connaissances à nous, mais on veut profiter aussi de leur façon de cultiver, de leur façon, on a des choses à apprendre d'eux. Hein. Donc c'est un partage de connaissances, un partage de culture aussi, c'est une interculturalité qui nous intéresse. Et pas seulement, et je vous ai dit aussi tout à l'heure quand on parlait pendant la conférence avec la Tunisie, on a aussi un partenariat, et donc le secours catholique n'est pas seulement en France, c'est aussi à l'étranger, hein, bien sûr. Et on a, comme je vous dis... Alors il y a à l'ORME par exemple un EBE, c'est-à-dire une entreprise à but d'emploi qui permet de remettre au travail des gens qui ont abandonné le travail, qui n'ont plus de travail, et en leur faisant faire des choses qui, par exemple livraison de bois, par exemple couture, par exemple je sais pas, des choses simples qui leur permettent d'avoir un salaire quand même.
Pour revenir sur une question que je vous ai posée tout à l'heure, du coup, est-ce qu'il y a un critère d'âge pour faire partie de...
Non, il n'y a pas de critère. Enfin, c'est mieux quand même d'avoir, 18 ans quand même. Mm-hmm. Hein, parce que, il me semble. Après, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que, et effectivement, le secours catholique peut aussi aider, par exemple, les gens qui sont à la mission locale, les jeunes qui sont à la mission locale et qui ne peuvent pas payer leur permis parce que c'est trop cher. Donc, ils peuvent faire 15 heures de bénévolat au secours catholique et après, le permis est moins cher. La mission locale participe et c'est moins cher. Mais il faut qu'ils fassent 15 heures de bénévolat. Quelque part, ça n'est pas obligé d'être au secours catholique, mais bon, on en a des jeunes. J'en en a une en ce moment, une jeune mauricienne qui fait 15 heures avec nous. Voilà.
Très bien. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour leur donner le déclic, pour venir travailler tout comme vous?
Je sais pas. Ma grande joie, je vais dire, c'est de voir les gens qui d'habitude sont seuls dans leur coin et qui retrouvent le plaisir d'être ensemble, le plaisir de bavarder, qui retrouvent le sourire, qui viennent nous remercier parce qu'on les a aidés. Et puis aussi, souvent on nous dit, le secours catholique c'est un peu différent, par exemple, du secours populaire. Enfin, sans aucune critique du secours populaire, mais je veux dire, on discute avec eux, on essaie de voir ce qu'il y a qui ne va pas, on leur pose pas trop de questions, du moins on essaie, mais on les laisse parler, on les écoute.
Et est-ce que vous restez en contact avec les personnes auxquelles vous êtes venus?
Oui, on essaie de rester en contact. On leur dit au contraire, venez nous voir, venez prendre un café avec nous quand la situation sera un peu améliorée et que vous aurez. Donc, on a plaisir à les revoir, hein, vraiment.
Eh bien, merci à vous, Madame Brigitte Enzenni.
Oui.
Merci à tous d'avoir suivi l'émission que vous pourrez retrouver sur bacfm.fr.
Merci beaucoup.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir.